Vous écoutez RTL.
RTL.
Vous devriez être ingénieur.
Je suis une femme noire. Je suis pas du genre à rêver à l'impossible.
Je me trouve devant une navette spatiale. De nos jours, il n'y a rien d'impossible.
La curiosité est un vilain défaut.
Oui, c'est John Glenn.
Vous faites quoi pour la NASA?
Je calcule vos trajectoires.
C'est grâce à vous que je m'enverrai en l'air.
Je t'ai vu reluquer ce blanc.
C'est ça l'égalité des droits. J'ai le droit de reluquer les hommes de toutes les couleurs.
La NASA n'admet pas les femmes dans son programme d'ingénierie. Vous devriez toutes être reconnaissantes d'avoir un emploi.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
L'histoire les a oubliées parce qu'elles étaient des femmes et qu'elles étaient noires. Double peine pour ces personnalités extraordinaires, mathématiciennes, ingénieures à la NASA, qui ont permis aux premiers hommes, des hommes, d'aller dans l'espace et d'en revenir sains et saufs. Rien que ça, pour raconter ces destins fabuleux, l'écrivain et historien Claude Ribes. Ce film dont on a entendu la bande-annonce figure de l'ombre, qu'on peut découvrir en janvier prochain, c'est l'adaptation d'un livre choc, celui de Margot Lee Chatterley. Qui est cette auteure américaine?
Alors c'est un livre choc un peu mal traduit, parce que Hidden Figures, il y a un petit jeu de mots que malheureusement on ne restitue pas. Figures, c'est à la fois les figures, comme en français, mais aussi les chiffres. Donc il y a cette idée de chiffres et de chiffres qu'on ne voyait pas lorsque les fusées partaient, et tout, plein de calculs derrière. Et puis celle qui effectivement travaillait sur ces chiffres. L'auteur est une afro-américaine qui était prédestiné à écrire ce livre parce que son père était dans cet univers de la NASA, cet univers très particulier de Virginie, où il y a beaucoup d'Afro-Américains et des gens qui sont à un niveau extrêmement élevé. Elle a d'abord travaillé dans la banque, je crois, avant de revenir à ses premières amours, à ce monde de son enfance dans lequel elle a trempé. Parce qu'elle vivait dans ce monde de la NASA quand elle était petite fille et dans ce monde aussi des Afro-Américains qui lui avait laissé penser que tous les Afro-Américains étaient des mathématiciens, des savants comme son père. Elle pensait que c'était tout à fait naturel.
Et un jour, Margot Lee Chatterley va découvrir une photo retrouvée par une archiviste de la NASA en 2011. Qu'est-ce qu'elle révèle, cette photo?
Alors cette photo, effectivement, était très curieuse. C'était une photo qui remontait à 1943, qui montrait des gens qui travaillaient à la NASA. Et parmi ces gens, ben, il y avait des Afro-Américains et il y avait des femmes. Et cette archiviste, au départ, a cru que c'était des gens qui avaient des fonctions tout à fait subalternes. Mais la photo qui a été transmise à l'auteur du livre a tout de suite éveillé sa curiosité, comme ici, et elle a voulu savoir qui étaient ces femmes. Elle s'est aperçue que ce n'était pas du tout des figurants, ce n'était pas du tout des femmes qui avaient comme rôle de vider les poubelles, c'était des femmes qui étaient essentielles, qui étaient des mathématiciennes, qui avaient été embauchées d'une manière assez curieuse, dans des conditions étonnantes à une période de ségrégation, pour faire des calculs, parce qu'elles étaient véritablement des génies.
Étaient surdouées.
C'était des surdouées, c'était des mathématiciennes de premier ordre. Pour la plupart, elles avaient enseigné déjà. Et puis, il y a eu cette opportunité pour la NASA de les utiliser pour calculer d'abord, ce qui n'était pas encore la NASA, c'était une autre appellation. On n'était pas encore dans la conquête spatiale.
D'abord, c'était la NACA.
Voilà, de calculer.
C'était de la balistique, en fait, de calculer des trajectoires, c'est ça.
De l'aérodynamique, puis après, effectivement, de se lancer à la conquête de l'espace.
On sait combien de mathématiciennes, de ces femmes noires, ont travaillé pour la NACA, puis la NASA, puisque ça a duré pendant des décennies.
Ce qui est absolument incroyable, c'est qu'on n'a pas de chiffre définitif. Et l'auteur du livre, Hidden Figures, continue à travailler là-dessus. Elle a identifié à peu près 50 femmes qui ont travaillé effectivement à ces postes clés, mais elle pense qu'on pourrait encore retrouver 20 ou 30 dossiers de femmes qui ont eu un rôle clé pendant ces années, disons entre 1943 et 1980, pour la conquête spatiale.
Ce qui est passionnant dans cette histoire, Claude Ribes, c'est que ce sont des femmes, elles sont afro-américaines, elles sont noires, donc deux combats à mener. Alors, les toutes premières femmes déjà qui arrivent à la NASA, c'est quelle époque?
Alors, les toutes premières femmes qui arrivent à la NASA, c'est en 1935. Et ça n'est pas sans exciter les sarcasmes des hommes qui, d'abord, sont étonnés de voir des femmes qui travaillent, des femmes qui arrivent à la NASA, mais qui sont surtout étonnés de voir des femmes qui réfléchissent et qui calculent. Pour eux, les femmes ne sont pas spécialement douées pour résoudre des équations. Et ils sont vite étonnés en s'apercevant que ces femmes-là, finalement, calculent beaucoup plus vite que pas mal d'ingénieurs de la NASA.
Vous nous l'avez dit, et ça peut sembler surprenant que des femmes noires aient eu accès à cet univers, un univers masculin, macho, qui est déjà en difficulté pour accepter des femmes, et en plus des femmes noires dans l'Amérique de cette époque. Qu'est-ce qui est à l'origine? Qui est-ce qu'il y a un homme qui est à l'origine de ces premières embauches de mathématiciennes afro-américaines à la NASA ou à la NACA qui précédait la NASA?
Alors il y a deux vagues en fait. Il y a d'abord les femmes qui arrivent, c'est déjà un choc pour les machistes de la NASA. Et puis après, il y a effectivement les femmes afro-américaines qui arrivent alors sous l'impulsion d'un activiste afro-américain qui s'appelle Asa Philip Randolph, qui a fait du chantage pour que le président Roosevelt engage des Afro-Américains, engage des femmes d'une manière plus équitable. On est dans une période de guerre et il a menacé d'une marche spectaculaire qui aura lieu bien longtemps après, d'ailleurs à laquelle il participera, d'une marche de 100 000 Afro-Américains sur Washington pour obtenir ce qui va permettre à ces femmes en 1943 d'être enfin embauchées, mais discriminées.
Catherine Johnson, Dorothy Vaughan, Mary Jackson, trois de ces 50 femmes noires américaines qui ont changé le monde, et il y en a sans doute bien plus. On vous raconte dans un instant comment elles ont lutté chaque jour de leur vie pour mener à bien ce destin.
La curiosité week-end, c'est jusqu'à 15h sur RTL. La curiosité week-end, c'est jusqu'à 15h sur RTL.
On vous raconte l'histoire de ces femmes brillantes, mathématiciennes, ingénieures, qui travaillaient à la NASA, qui ont contribué à la conquête de l'espace et qui ont été tout simplement oubliées, gommées des manuels d'histoire. C'est notre invité, écrivain, réalisateur, historien, Claude Ribes, qui nous raconte ces destins de femmes afro-américaines oubliées. On va se concentrer sur quelques-unes d'entre elles. Dorothy Vaughan, par exemple, c'est l'une de ses pionnières. Elle rentre à la NASA en 43. Alors, ça s'appelle la NACA à l'époque. C'est quoi son histoire, sa formation? Comment elle se retrouve à un poste important pour la conquête de l'espace américain?
Ce qui l'amène là, c'est d'abord son talent, parce que c'est une. Quand elle arrive en 1943, pendant quelques années, elle a exercé en Virginie ce que toute femme afro-américaine peut faire à l'époque dans le service public et en tant que prof. Mm-hmm. Il y a beaucoup de femmes dans cette région qui sont diplômées, mais elles ont beaucoup de mal à se faire embaucher ailleurs que dans l'enseignement. Et donc, elle tombe sur des petites annonces, hein, oui. Puisque c'est une femme qui est très, très courageuse, qui est aussi une mère de famille. Et elle a le choix, entre un travail qui n'est pas très gratifiant. Elle doit travailler comme lingère sur une base militaire. Et puis, il y a une deuxième annonce qui demande plus de qualifications, qui est calculatrice au NACA, enfin ce qui va devenir la NASA, et elle choisit effectivement ce poste-là.
Alors elle va devenir mathématicienne, elle est mathématicienne à la NACA, Dorothy Vaughan, et quand elle arrive dans ce centre de recherche, elle doit rejoindre une aile du bâtiment bien spécifique.
Ah oui, alors là, elle s'aperçoit que même si elle est embauchée en raison de ses compétences, la ségrégation est toujours là, et ce qui est stupéfiant, c'est que la ségrégation règne, effectivement en 1943, la ségrégation règne à ce qui va devenir la NASA. Il y a une aile, ça paraît inouï, qui est réservée aux Afro-Américains, et plus spécifiquement aux Afro-Américaines. Et il y a une unité, c'est ça qu'a découvert cet auteur dans ce livre absolument incroyable, et qu'on va voir dans le film. Une salle, il faut imaginer ça, avec des génies des mathématiques, mais toutes ces femmes sont des femmes noires. Et c'est ça que Dorothy Vaughan va découvrir à son arrivée.
C'est l'aile ouest, elle s'appelle comme
l'ouest.
Ça. Elle va être supprimée quelques années après.
Oui, quand elle sera supprimée, en fait, quand les choses auront évolué, quand la NASA va être véritablement créée, et aussi quand les ordinateurs vont arriver. Mais avant, on est à l'ère qui précède les ordinateurs. Les ordinateurs, ce sont ces femmes. On les appelle les computers. C'est la West Computing Area. Elles sont les computers colorés de la NASA.
Et c'est quoi leur vie? C'est beaucoup d'heures de travail, c'est bien payé, c'est quoi leur vie?
Leur vie, d'abord, c'est l'enthousiasme pour ce travail, parce qu'il faut quand même dire qu'elles sont passionnées malgré les discriminations, malgré le fait que c'est pas toujours facile non plus de travailler dans un milieu qui est non seulement un milieu blanc, mais un milieu d'hommes. Elle travaille énormément, c'est 18 heures par jour, 6 jours sur 7, avec une abnégation totale et beaucoup de difficultés sur le plan personnel. Mais effectivement, dans le cas de Dorothy, on le voit, ces femmes gagnent 2 ou 3 fois plus que ce qu'elles pourraient gagner en enseignant. Mais c'est 2 000 $ par an, quelque chose
comme
ça.
Quel genre de calcul elles doivent faire toute la journée, Dorothy Vaughan et ses collègues ? Des calculs de trajectoire ?
Oui, elles calculent les trajectoires. Dans un premier temps, on n'en est pas vraiment encore là. Dans un premier temps, elles vont surtout faire des calculs qui servent aux différents laboratoires, des calculs qui servent à l'aérodynamique, qui servent aux souffleries. Au départ, on est quand même dans une ambiance de guerre, donc ces calculs vont être aussi exploités par toute l'industrie aéronautique militaire qui prévaut à cette époque-là.
Mais par exemple, est-ce qu'il y a des applications concrètes de ce que Dorothy Vaughan et les autres femmes mathématiciennes qui étaient comme ça cantonnées dans une aile réservée aux Noirs, est-ce qu'il y a des utilisations sur les avions de guerre,
Absolument, il y a eu des calculs qui ont été faits par certaines de ces mathématiciennes qui ont permis de rendre les projectiles extrêmement précises, même à des altitudes très élevées. C'est pas quelque chose de très simple quand on tient compte de tous les paramètres qui sont liés effectivement à l'atmosphère.
Le quotidien aussi de Dorothy Vaughan, ces femmes noires mathématiciennes qui travaillaient dans ce qui était l'ancêtre de la NASA, c'était un quotidien de cantonnement, de privation, d'humiliation. Elles ne pouvaient par exemple pas partager les toilettes avec les Blancs, il faut le rappeler ça, les Blancs qui travaillaient à la NASA.
Alors ça oui, il y a deux gros problèmes du quotidien pour ces femmes. Il y a une cafétéria, enfin une cantine qui est dédiée, et puis il y a les toilettes. Et il faut dire que les toilettes, c'est d'autant plus humiliant pour certaines que les toilettes sont balisées pour les Afro-Américains, elles ne le sont pas pour les autres. Et dans certains cas, ça donne lieu à des quiproquos. Quand une femme afro-américaine, par hasard, va dans l'autre aile du bâtiment, dans l'aile est, et qu'elle est amenée, ça peut arriver, à demander les toilettes, et bien évidemment, ça déclenche des ricanements, des sarcasmes, puisque bon, les toilettes des Afro-américaines de ce côté-là ne sont pas balisées.
Même le week-end, la curiosité est un vilain défaut.
RTL.
Je ne vous trouve jamais quand je vous cherche. Vous disparaissez où, pour l'amour du ciel ?
La salle de bain des Noirs est à 1 km.
La curiosité est un vilain défaut.
On décrochera les étoiles ensemble ou on les décrochera pas du tout.
Je demande aux filles de réviser les calculs.
Mes filles sont prêtes. On peut y arriver.
Colonel Glenn ?
Content de voir que la NASA n'a pas fait une croix sur la bonne vieille matière grise.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Un extrait d'un film figure de l'ombre, ces femmes qui ont contribué à la réussite du premier vol orbital américain en 62, au premier pas de Neil Armstrong sur la Lune en 69. Ces femmes étaient noires, brillantes, mathématiciennes, et l'histoire a choisi de les ignorer, mais ce n'est plus le cas. Aujourd'hui, on en parle notamment dans La Curiosité avec l'écrivain et historien Claude Rib.
Qu'est-ce qu'il dit John Glenn, juste avant de partir, à propos de Katherine Johnson ?
Il faut le comprendre, John Glenn, il n'est pas très chaud pour y aller quand même.
Il flippe un peu, quoi, oui.
Oui, il y a une petite angoisse. 3-4 jours avant, tout est bien. Faut dire que ça se prépare depuis des années. Bien Catherine sûr. Johnson a déjà tout prévu. On lui dit, voilà, il faut que la capsule tombe à tel endroit. Et elle sait exactement comment il faut déterminer le vol. Mais John Glenn a des doutes parce qu'on a fait intervenir non plus les calculatrices humaines de couleur, mais les ordinateurs. Et là, il se dit quand même, parce que les ordinateurs, ça tombait un peu en panne, ça buguait. Au départ, c'était les ordinateurs avec les cartes perforées, vous savez, programmés en Fortran. Donc il a un peu la trouille et il dit, moi, j'ai réfléchi, je veux bien partir, mais avant, il faut que la fille, il ne dit pas la fille de couleur, la fille, c'est Katherine Johnson, je veux que la fille, elle recalcule tout pour savoir si l'ordinateur ne s'est pas planté. Et en l'espace de quelques heures, le petit génie de la NASA, qui est Katherine Johnson, va tout recalculer.
Donc il n'y aurait pas eu ce premier vol orbital sans elle, on peut dire ça.
Elle s'aperçoit que l'ordinateur a tout bon, et là, John Glenn dit « Ok, j'y vais ». Et c'est grâce à elle, véritablement, que le vol a pu se faire. Sinon, il aurait pu annuler la mission, qui n'a pas été sans encombre, d'ailleurs, parce qu'il a quand même failli mourir.
Enfin, notre petit bond dans le temps, dans cette conquête spatiale. Nous sommes le 20 juillet 69 et l'homme s'apprête à marcher sur la Lune. C'est la mission Apollo 11. Que pensait Neil Armstrong de ses chances d'allunir du premier coup ? Lui aussi, il était un peu...
Bah, il était encore moins chaud que John Glenn, et il se disait bon, il y a une chance sur deux qu'on y arrive la première fois. En plus, c'est en live, il y a 600 millions de personnes qui vont regarder ça, oui. Écouter ça aussi à la radio. Ouais. C'était un événement véritablement historique. Parmi ces 600 millions de personnes, il y a les employés de la NASA. Ils sont 4000 à avoir travaillé là-dessus. Et puis, il y a un petit groupe restreint qui a vraiment travaillé sur le dossier. Et là, Katherine Johnson est aux premières loges. Elle est probablement extrêmement émue.
Elle sait que ça va sans doute marcher.
Elle sait que ça va marcher. Peut-être qu'elle a une pensée aussi en se disant quand est-ce qu'on verra un astronaute afro-américain marcher sur la Lune, et peut-être même qu'elle se dit quand est-ce que ce sera une femme.
Oui, parce que c'est une pionnière et forcément elle voit loin. Quand on n'est pas féru de conquête spatiale, on a peut-être un peu de mal à imaginer leur job. Qu'est-ce qu'elles font? Elles calculent les trajectoires, elles calculent l'endroit exact où la capsule va revenir sur Terre. C'est quoi leur
métier? On part de là, on dit voilà, notre problème c'est parce que le problème c'est de récupérer vivant quand même
Oui, parce que c'est sympa de les lancer, mais après il faut les récupérer.
Il faut récupérer l'astronaute, il faut récupérer aussi la capsule avec toutes les données qui ont pu être enregistrées. Et on part du point de récupération, en fait, le plus près possible. On a vu ces images, la capsule tombe dans l'eau. Et partant de là, on demande à ces femmes, à ces petits génies, de tout le reste, savoir quels sont les paramètres qui font que la capsule, après 6 ou 7 tours en orbite, dans le cas de 1962, oui. C'est plus compliqué encore quand on revient
de la
Lune.
Quand il faut se poser, oui.
comment on va faire pour rentrer à tel endroit et être récupéré et pas de tomber à 1000 km du but.
Et parmi ces femmes qui ont aidé, participé à cette conquête spatiale, il y a Mary Jackson. Elle arrive en 51 à la NACA, qui va devenir la NASA. Elle est mathématicienne et sa carrière est marquée par la lutte. Une humiliation va dicter son destin quand elle arrive. Elle se rend dans l'aile S, la fameuse aile des Blancs. Qu'est-ce qui lui arrive?
Je racontais ça tout à l'heure un peu à son propos. Elle a envie d'aller aux toilettes et elle demande aux femmes qui sont là, qui sont évidemment pas des femmes de couleur, où se trouvent les toilettes. Et tout le monde rigole parce qu'elles ne se sont jamais posé la question. Leurs toilettes, à elles savent où elles sont, mais les toilettes qui sont réservées aux Afro-Américaines, elles ne savent pas où elles sont. Et là, l'humiliation pour Mary Jackson, c'est de chercher les toilettes et de ne pas arriver à les trouver. Elle s'en souviendra toujours. Ça l'empêchera pas de simple ordinateur coloré qu'elle était au départ, de devenir ingénieure. Ça, c'est très difficile. Il y a très peu de femmes, même blanches, qui arrivent à devenir ingénieure.
Ingénieure en aérospatiale.
Absolument. Oui. Et elle va conquérir ce titre à force de lutter.
Et donc, on vient, il y a seulement quelques années, de découvrir l'histoire de ces femmes. Il y a ce film américain, Les Figures de l'Ombre. Ça rejoint, vous étiez venu il y a quelques semaines, Claude Ribes, nous parler de personnalités noires, souvent antillaises, souvent métisses et françaises. Ces personnalités qui ont été aussi oubliées dans notre histoire.
Oui, j'ai d'ailleurs publié un livre très récemment qui s'appelle Une autre histoire, On cherche midi, et ce livre fait le recensement de ces autres personnages oubliés. Il y a des femmes aussi. Dans l'histoire de France, de même que dans l'histoire des États-Unis, il y a pas mal de figures de l'ombre. Et je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à écrire.
Voilà, c'est la fin de votre curiosité du week-end. On se retrouve demain soir. On sera là à 20h. Vous serez là, Sidonie?
Ah bah oui. Oui, vous m'invitez?
Je vous ai surpris.
Alors, je suis en train de boire un peu d'eau.
Bah oui, il est l'heure. Hein. Bon, allez, on parlera. Ce serait bien que vous soyez là parce qu'on va parler de sexualité au Japon.
Je suis une spécialiste de la question.
Voilà, des voix VOIX de notre quotidien.
J'aurai mon mot à dire.
Et puis, on vous propose aussi une histoire d'un berceau de nos civilisations, la Mésopotamie.
Allez, bonne fin de week-end à vous, les curieux. Dans un instant, vous avez le bonheur de retrouver Éric Jean-Jean et son 100% live.